C'est simplement là maintenant, vous êtes attentif à l'espace. L'espace que votre corps occupe, l'espace de la pièce, et puis au-delà, l'espace. Qu'est-ce qui est ressenti au moment où vous êtes simplement conscient de l'espace ? Le plus souvent, il y a une sorte, au moins, de calme, de tranquillité. Et puis, vous pouvez aussi écouter le silence. Il n'est jamais complet. Mais si simplement vous êtes en contact avec le silence, vous écoutez le silence. Ça produit le même genre d'effet, ce calme, cette tranquillité. Et vous pouvez aussi remarquer que les sons apparaissent au sein du silence. C'est pas alternance. Bruit, silence, son, silence, c'est fond de silence, apparition d'un bruit sur le fond de silence, disparition du bruit. Sans le silence de fond, aucun son ne pourrait être entendu. De même, l'espace contient tout ce qui existe est contenu au sein de l'espace. Et si je fais un geste dans l'espace, l'espace demeure inchangé. Il est le même avant, pendant et après le geste. Et si vous pensez au mur d'une maison, l'espace est aussi à l'intérieur du mur. Il n'est pas séparé par le mur. La séparation est illusoire. Bien sûr, nous on parle d'un dedans et d'un dehors. Mais l'espace, lui, il traverse le mur. Enfin, il est dans le mur aussi, quoi. Il ne peut pas être séparé. Il est séparé seulement en apparence. Parce que nous, on ne peut pas passer à travers le mur. Mais l'espace, lui, passe à travers le mur. Enfin, plutôt, il est là avant même le mur, il est là pendant qu'il y a le mur, et il est là après le mur. Il n'a pas changé. Et si maintenant vous essayez d'arrêter d'être, est-ce que vous pouvez arrêter d'être? Et là, je demande une réponse.
Non.
Daniel, là, c'est clair aussi?
Impossible.
Voilà. Et c'est là-dessus que se fonde, en fait, la perspective non-duelle. En réalité, en amont des apparences, il n'y a pas de séparation. Et on ne peut pas arrêter d'être. Nous sommes, et nous sommes ce que nous sommes, que nous en soyons conscients ou non. Et on ne peut pas ne pas être. Et maintenant, quand vous restez en contact avec ce « je ne peux pas ne pas être », faites-le là maintenant, vraiment. Restez, et si c'est difficile à rejoindre cet espace, reposez-vous la question « est-ce que je peux arrêter d'être ?» Là, il y a la surprise « ah ben non, je sais que je suis ». Je sais que je suis sans aucun doute. Et regardez de quoi est fait ce je suis. On retrouve ce calme, cette tranquillité, ce genre de, on va dire, non ? Une sorte d'apaisement. Si vous restez avec cet espace « je suis », ce « je suis », cet être-té, Vous constatez aussi que les pensées apparaissent au sein de cette être-té. C'est-à-dire que ce n'est pas cette être-té qui pense. Cette être-té elle-même est sans pensée. Il y a des pensées qui apparaissent. Et qui disparaissent. Et est-ce qu'il y a l'idée d'un moi au sein de cette être-té? Est-ce qu'il y a l'idée d'une séparation? L'idée. Est-ce qu'il y a l'idée d'un manque? D'une incomplétude, d'une recherche, de besoin d'aller vers quelque chose, de trouver quelque chose. Tout cela s'effondre. Est-ce que même cet être-té a, on pourrait dire, a un sexe ou un âge? Pas du tout préoccupé par tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je dis? S'il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair, c'est le moment de le dire. Donc toi, je dis que tu hochais la tête, donc je pense que c'est bon. Daniela, c'est clair aussi? Ok, bon, les autres ne te demandent pas parce que. Bon, voilà. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre de réunion?
Non.
Du tout? Jamais?
Merci.
Oui, j'ai déjà vu. Réunion
autour de la non-dualité, de la perspective non-duelle?
Oui, une fois l'autre, oui.
Vous savez un peu de quoi on parle? Non?
À la non-dualité, t'as pas encore, donc je suis pas encore venue à la non-dualité.
Alors je vais faire un tout petit peu plus court pour vous en espérant qu'on va y aller directement. Essayez un instant de ne pas être. Est-ce que vous y arrivez? Vous arrivez à cesser d'être, là tout de suite?
Lâcher
quoi? Et au moment où ça lâche prise, qu'est-ce qui est constaté? Est-ce qu'il y a un arrêt de être? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Plus de conscience. Pour vous, c'est comment? Arrêtez d'être, vous arrivez à arrêter d'être? Vraiment. Et au moment où je vous dis essayez d'arrêter d'être, et vous constatez vous ne pouvez pas arrêter d'être, comment est-ce à l'intérieur? Est-ce que vous pouvez le qualifier ça? L'un ou l'autre? Ou cette conscience qui demeure? Est-ce que c'est agité, calme ou ni l'un ni l'autre? C'est ce qui vous amène ici.
Entre autres.
Et au moment où vous regardez, où vous allez vers cet espace, est-ce que je peux arrêter d'être? Et vous constatez, ah non, je ne peux pas arrêter d'être. Ce qui est constaté à ce moment-là, je ne peux pas arrêter d'être, qui est finalement être-té, on va dire, conscience d'être. Comment alors ressentez-vous? Ou simple conscience, peut-être. Les mots peuvent changer d'une personne à l'autre, c'est pas grave. bien-être. Tranquille. Mmh. C'est pas rien, un bien-être tranquille. C'est pas rien, le bonheur. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a besoin de le laisser s'approfondir, de le laisser le ressentir, parce qu'on n'est pas tellement habitué. Mmh.
Exact.
C'est ça, c'est ce que j'appelle je suis, on va dire, pour mettre des mots sur. On peut l'appeler l'être-té, on peut l'appeler la conscience d'être, on peut l'appeler plein de façons. Cette conscience d'être, elle est tout le temps là en fond. Elle nous quitte jamais, on ne peut pas arrêter d'être jamais. Que l'on en ait conscience ou non, l'on est. Que l'on en ait conscience ou non, cet être-té dont on commence à percevoir l'existence, là maintenant, vous arrêtez pas au bout, hein, bien sûr, elle est tout le temps là, que l'on en ait conscience ou non. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? On est happé par les choses, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui nous attire et ah, on y va. Et on oublie la conscience d'être. On oublie cette être-té de fond sans laquelle l'attirance ne pourrait pas se présenter. Parce que si vous ne vous étiez pas, ben vous ne seriez pas là. D'accord ? Donc il faut être pour qu'il y ait présence ici. Cette conscience d'être, cette être-té, elle permet tout. Elle est comme l'écran sur lequel les images du film se déroulent. On regarde jamais l'écran. Enfin, on regarde toujours l'écran, mais on ne le perçoit pas. On regarde les images sur l'écran, quand on regarde l'écran. Mais aller dans une salle de cinéma regarder un écran blanc pendant 2 heures et payer 20 euros, ça ne va pas intéresser qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on est attiré par les images, on est attiré par l'histoire. Alors, on oublie que les images sont projetées sur un écran et on regarde les images. On oublie l'être-té et on regarde, on est pris par ce qui se passe, par ce qui arrive. Et cependant, si simplement, lorsque vous essayez d'arrêter d'être, vous constatez qu'en fait, vous ne pouvez pas arrêter d'être. Et quand vous êtes avec cet être-té qui est là tout le temps, bah c'est tranquille, c'est le bien-être, c'est le bonheur. Mince, c'est exactement ce qu'on cherche tout le temps. Et c'est là, c'est ce qu'on est. Et puisque c'est ce qu'on est, on ne peut pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. Donc la recherche du bonheur dans le monde, ou à travers une psychothérapie, ou à travers une recherche spirituelle, peu importe, est d'avance voué à l'échec. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous êtes. Vous l'êtes. Mais le réaliser, tout est là. Voilà, je fais ma petite introduction. À vous.
Je voudrais dire, si je peux me permettre, que oui. Dans la phénoménalité, il y a quand même des lois cause à effet. Et donc,
Apparemment,
et donc apparemment, il faut aussi, il n'y a pas de mal à faire une psychanalyse, une psychothérapie.
Ah, bien sûr, il n'y a aucun mal à rien faire. Bien sûr, il n'y a pas de mal.
Si on sait que ce n'est pas ça qui nous fera atteindre le bonheur, ni
oui, tout à fait, tu fais bien de souligner.
L'être, je trouve que, bon, voilà, oui. Pas jeter le bébé à l'eau du bain.
Tu fais tout à fait bien de le souligner. Je ne suis pas du tout en train de décrier quoi que ce soit et de juger quoi que ce soit. Les choses arrivent. Et faire une psychanalyse ou une recherche spirituelle ou n'importe quoi d'autre arrive. Comme de manger, boire ou dormir. Ça arrive. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ça pose quand même une question par rapport à... Parce que, par exemple, quelqu'un comme Jean-Marc, pour lui, on est fasciné par le drame.
Par l'histoire, par ce qui arrive. Oui.
Pour certains même d'entre nous, pour bon nombre d'entre nous, c'est un drame. Puisqu'on finit tous par mourir. Donc
c'est pas un drame, ça. C'est une pensée, Anne. Anne, c'est une pensée. Mourir n'est pas joyeux, c'est une pensée. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que tu en es sûre à 100%? Est-ce que tu peux être prête à donner ta main pour ça? Te faire couper la main pour ça? Non. Donc tu n'es pas obligé de croire cette pensée. Et maintenant, imagine que tu ne puisses pas penser cette pensée. La mort est un drame.
Non, je suis d'accord.
Ça irait mieux. Or, rien ne prouve qu'elle est vraie. En tout cas, tu n'es pas du tout sûr qu'elle est vraie quand tu la regardes. Ah ben alors.
Mais non, ce que je veux dire, c'est que non, pour certains, éveillés,
pas
en tout cas, mais, je voudrais savoir justement, pour certains éveillés, donc c'est une certaine forme de différence, de fascination, et puis d'autres disent que c'est des conditionnements, c'est l'histoire, la mémoire qui fait que...
C'est un mélange de plein de choses. Il y a de la fascination, il n'y a pas que de la fascination, il y a plein de choses.
Attirance.
Oui, attirance, fascination, peu importe le mot, c'est des mots.
Pour toi.
Oui.
Mais moi, t'inquiète pas, bien sûr. D'accord. Mais bien sûr, tu es fasciné par ton drame.
Sinon,
on
ne fait pas exprès,
on est happé.
On est happé, oui, exact. Oui. Exact.
En dépit de fascination.
En dépit de nous-mêmes. Oui. Ouais. Pardon?
C'est un mouvement.
C'est un mouvement, exact. C'est un mouvement. Avec personne pour le faire. Ça arrive.
Ça se fait.
Ça se fait.
Tu terminais ton introduction par il n'y a plus qu'à le réaliser.
Il n'y a plus qu'à.
On va terminer en disant mais le réaliser.
C'est pour ça qu'on est là.
C'est pas la même chose.
Pourquoi on ne réalise pas?
Question plus précise. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le réalise pas? Eh bien, par exemple, le fait d'être fasciné par les objets. On va appeler objet tout ce qui apparaît à la conscience. Les pensées, les objets, bien sûr, mais aussi les personnes, les attirances entre les êtres, etc. Tout. Tout ce qui peut être perçu va être appelé un objet. Et tout, perçu, ressenti, enfin, etc., pensé, enfin, sauf que c'est pas
tout,
une
émotion. Surtout tout ce qui bouge.
Les émotions, puisque les émotions sont des objets. L'attirance pour tous les objets, oui. On est fasciné par les objets, c'est vrai.
Surtout les mouvements d'objets.
Ce qui l'empêche de le réaliser, ce sont les croyances aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que telle ou telle chose, tel ou tel événement, telle ou telle personne va nous apporter un bonheur durable. C'est ça la recherche. On cherche le bonheur, mais ça peut s'étiqueter autrement, l'unité, l'amour, la paix, la joie, peu importe. On recherche ça ardemment. Alors ça peut être à travers une voiture, une télévision, grand écran, une deuxième voiture, puis se marier, avoir des enfants, une maison, etc. Ça peut être la psychothérapie, ça peut être la recherche spirituelle, ça peut être la perspective non duelle, mais il y a toujours une tension vers.
C'est dans le plus, c'est des choses qu'on veut en plus.
C'est
pas, on ne cherche pas à enlever des choses, on cherche à rajouter des choses.
À acquérir quelque chose, ça, oui.
Parce que je crois que je vais dire l'inverse de la croyance de manque.
Exact. C'est-à-dire qu'on cherche à acquérir quelque chose. Or, comme je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas acquérir ce que vous êtes. En plus, ça n'a aucun sens, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien.
On l'a déjà.
On l'est.
Oui,
on ne l'a pas, on l'est. Et on croit que quand on aura acquis ce qu'on cherche, alors on sera heureux. Et ça, c'est une croyance qui nous projette très rapidement dans le monde, enfin dans la recherche, quoi. Et il y a une autre croyance qui est très enracinée dans l'espèce humaine, très partagée, et qui est aussi à l'origine de la, qui est à l'origine en fait de toute souffrance ou presque, de toutes les qui est à l'origine de la souffrance. C'est l'idée d'un moi. Et je dis exprès l'idée d'un moi. C'est-à-dire, on croit qu'il y a un moi.
On en est même sûr. Qui agit ?
Qui est un moi qui pense. C'est-à-dire, un moi, c'est-à-dire en tant qu'individu séparé, qui pense par lui-même, qui agit par lui-même et qui fait des choix. En réalité, il n'y a pas de moi. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Ça veut dire qu'aucun moi n'a jamais rien fait. Et qu'aucun moi ne fera jamais rien. Non. Si vous regardez, oui. Oui.
Avoir la conscience d'un moi, donc on croit qu'il y a un ego.
Je vais distinguer le moi de l'ego. Je continue.
J'aimerais avoir des précisions là-dessus.
Oui. Si vous regardez, est-ce que vous pensez les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent en vous ?
Elles surgissent.
Et si vous regardez d'une façon générale, il y a plein de pensées que vous croyez d'office sans avoir regardé si elles étaient vraies. Comme Anne disait tout à l'heure, le drame de la mort. Mais est-ce que c'est un drame la mort ? Qu'est-ce que t'en sais ? Ah, je sais pas.
On l'a lu.
Je sais même que c'est faux.
Mais c'est un drame pour ceux qui restent, hein, aussi.
Ah, non, ça aussi c'est une histoire.
C'est culturel.
Il y a un côté culturel. Il y a quelque chose de conditionné. Voilà. Quelqu'un qui serait heureux de la mort d'un proche, on dira, il l'aimait pas.
Oui. Ça dépend si on serait.
Et puis c'est lié à l'idée d'un manque. Si on souffre de la mort de quelqu'un, c'est parce que on a l'impression, on a le sentiment, on a un vécu de manque. En fait, c'est une pensée de manque. Et puis, on est triste, ce qui est normal, qu'il y ait de la tristesse qui soit ressentie. Mais cette tristesse, elle est étiquetée négative, je vais dire. On estime que la tristesse est une expérience négative. En réalité, c'est faux. Quand vraiment on est juste avec la tristesse, juste avec la tristesse, ce qui n'arrive pas toujours, et pas, même pas souvent dans bien des cas, c'est doux la tristesse. La tristesse seule. Bien sûr, quand les pensées viennent se rajouter « Oh, il me manque, et ce serait tellement mieux aussi », c'est plus doux du tout.
Mais déjà, on peut partir de la sensation avant d'être dans les pensées, parce que je sens des trucs, et ça, je crois bien que c'est à moi et pas à ma voisine. Par exemple, ce qui se passe dans mon ventre, mais j'appelle l'émotion, ce que je sens, mes pieds ne sont pas clairs, je ne le pense pas, enfin, la forte croyance que ma voisine ne sent pas les mêmes. Donc, par extension, mes pensées vont être les mêmes, les miennes ensuite.
Il faut voir si on a... Mais est-ce que ce sont mes sensations ou est-ce que ce sont des sensations qui apparaissent à ma conscience?
Oui, sur ma tête, à l'image. En fait, si je vois bien que c'est des sensations qui apparaissent, quand je mets en méditation, les faire dans mon coin, je ne sais pas dans quoi elles apparaissent, mais elles apparaissent et disparaissent, ces sensations, émotions, etc. Mais j'ai aussi fait l'expérience que c'est difficilement partageable.
Ça, c'est autre chose.
Et c'est de là que je vais comprendre que le bout de moi qui est là, il n'est pas le même que là. Donc, je vais en déduire que c'est le mien.
Il n'y a pas de monde.
Oui, oui, ça, c'est la théorie.
Attention. Il convient de distinguer je me moi bien en tant qu'expression langagière, facilité langagière, qu'on va conserver, et je me moi bien en tant qu'individu séparé, qui pense par lui-même, qui agit par lui-même, qui fait des choix par lui-même. Évidemment que ce corps appelé Luc, on peut dire moi, Luc. Tu comprends ?
Mais c'est là que ça va être basé, parce que en tant qu'enfant, pour prendre l'image,
oui.
Je vais expérimenter des sensations et je vais bien voir que. Enfin, je vais expérimenter que ce n'est pas transmissible et généralisable. Les émotions, puis le parler aussi, la difficulté de communiquer.
Oui. Ah, jusqu'à un certain point, ceci est vrai. Ça donne une impression de séparation. En tout cas, ça donne. Il y a toi, il y a moi. Il y a un organisme là-bas, il y en a un autre ici. Et cet organisme là-bas ressent certaines choses et cet organisme ici en ressent d'autres.
Oui, ça permet d'avoir des points de vue.
Et les pensées qui apparaissent là-bas ne sont pas forcément celles qui apparaissent ici. Parfois, ce sont les mêmes. Et les émotions qui apparaissent là-bas ne sont pas non plus celles qui apparaissent ici. Parfois, ce sont les mêmes. Mais peu importe. Oui. Et puis, ici, il pleut, je suis sûr qu'il y a dans le monde, quelque part, il fait beau. Mais c'est quand même pas séparé pour autant. Et ça ne prouve pas que cet organisme corps mental possède un moi qui fait des choix, qui pense par lui-même et qui agit par lui-même.
Donc en fait, on disait tout à l'heure, on se fait happer par les choses, les événements, c'est-à-dire que quelque part, je me suis fait happer par le côté particulier.
Oui.
Alors que, et du coup, je néglige complètement le côté générique. Donc je suis focusé depuis 48 ans sur le côté particulier de ce qui apparaît.
Voilà, renforcé par l'idée d'un moi. Renforcé par l'idée d'un moi. Parce qu'en même temps, Luc, je suis sûr que tu le sais très bien, mais parfois tu ressens ce que ressentent d'autres personnes.
Oui, oui, dans mon cas, c'est très clair. Je pense que c'était même une défense à bâtir.
Voilà, pour bien me sentir moi, je me sépare de tout ce que je peux ressentir qui n'est pas moi.
Ou qui ne me plaît pas.
Que j'estime ne pas être moi. C'est-à-dire qu'on crée une séparation.
La séparation se crée.
C'est créé, oui. Oui, c'est des mots.
Qu'est-ce qu'on fait bien.
C'est créé. Parce que ma voisine fait, je vais m'en séparer. Parce qu'elle râle sur ce que je fais. Donc, alors, soit je disparais. Soit j'essaie de la faire disparaître, enfin, c'est, ça va être une logique.
Non. Il y a d'autres solutions.
Oui, mais dans les cas, à dire, dans les cas facilement que la culture porte. Quoi.
Oui, dans les cas habituels de culture d'individus séparés qui doivent lutter les uns contre les autres et pour pouvoir survivre, évidemment que les choix sont assez restreints. Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose de l'ordre du singulier ou de l'élan, comme on en avait parlé l'autre fois, de l'élan qui est de l'ordre du désir et qui est en même temps, ça me semble comme contradictoire. Soit c'est, il y a le tout et puis dans ce tout apparaît différentes choses. Et en même temps, ce tout s'exprime de manière singulière. Il y a quelque chose de singulier en chacun de nous.
Le tout s'exprime de milliards de façons singulières.
Ce qui fait que c'est rigolo.
Oui. Ce qui fait que c'est rigolo aussi.
Oui. C'est le mystère.
Exact. Mais cette singularité n'appartient pas à un moi. Il n'y a pas de moi.
À quelqu'un.
Il n'y a pas de moi. C'est ce que je veux. Parce que depuis le début, j'entends des mots, des choses qui font visiblement écho par rapport aux personnes qui parlent, mais je n'arrive pas à comprendre c'est-à-dire à ressentir ce qui est dit là. Mm-hmm. Donc je me sens complètement étrangère à la notion du moi, du non-moi. Je n'arrive pas à comprendre parce qu'il ne s'agit pas de ma tête.
Oui. Oui.
Donc, voilà. Donc il n'y a pas de moi. Alors... Enfin, c'est un préambule, c'est quoi ça? Il n'y a pas de moi. Il y a quand même un amas de cellules autour d'une pensée. Et des organes, comme disait monsieur,
exact.
Qui font bleu, qui font plein, qui font bien les toucher d'autres. Donc,
ça, c'est un organisme. Voilà. D'accord ? Ce n'est pas un individu séparé qui pense par lui-même, qui agit par lui-même, qui fait des choix par lui-même.
C'est une réalité ou ce n'est pas une réalité ?
De quoi ?
Cet organisme.
L'organisme, existentiellement parlant, c'est évidemment une réalité. Oui, quand je me promène en forêt, je contourne les arbres, comme tout le monde. C'est une réalité existentielle.
Une réalité existentielle. Mais est-ce que je suis heureux de contourner les arbres ou de me les prendre en plein ?
On peut essayer les deux versions.
Le choix est généralement vite fait.
Là, il y a une notion de moi. Une notion. Je crois qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. Parce que les attractions ne sont pas...
Alors, évidemment que la personnalité demeure. Je vais distinguer trois choses. L'idée d'un moi, j'ai défini une fois de plus le moi comme un individu séparé, une entité séparée, on pourrait dire, qui pense par elle-même. Et regarde Adela, est-ce que tu penses tes pensées ou est-ce qu'elles arrivent ? Qui agit par elle-même ? Est-ce que tu agis de toi-même ou est-ce que les actes arrivent ? Et qui fait des choix par elle-même. Est-ce que tu as déjà choisi quelque chose dans ta vie ou est-ce que les choix, à un moment donné, se font ? Voilà. Ça, donc, j'ai distingué d'une part, mais ça, après, on peut en parler. On peut en parler. Donc, d'une part, ce moi, c'est ça. Après, il y a l'ego. L'idée d'un moi, cru, il y a une pensée. Je suis moi, moi, moi c'est moi, et moi je pense, et moi j'agis, et moi je fais des choix, et moi je suis responsable, voire coupable de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, etc., etc. C'est ce moi-là dont je parle, qui pour moi n'existe pas. Mais le moi en termes de facilité langagière, désignant un organisme, va demeurer bien sûr. Il y a ensuite l'ego, c'est-à-dire cette idée d'un moi cru crée plein de choses. Vous croyez au Père Fouettard ou au Père Noël ou au Saint-Nicolas, ça va jouer dans votre vie, ça va créer des choses. Autrefois, les gens croyaient que la planète était plate, qu'il risquait de tomber dans le trou, ça créait de la peur. Mais la planète tournait quand même. D'accord ? Et le jour où ils ont dit « Ah zut, elle est ronde !» Ils ont arrêté d'avoir peur de tomber dans le trou. Mais la planète a toujours tourné pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, rien ne change. Mais pour l'organisme, il y a des changements. Donc, en ce sens-là, on va continuer à tourner les arbres dans la forêt, mais sauf que ce n'est pas moi qui vais le faire, ça va se faire de soi-même. Donc, par contre, la croyance en un moi crée plein de choses. Puisque je suis responsable de mes choix, de mes actes et de ce que je fais et de ce que je ne fais pas, il faut que je fasse super gaffe. Les enfants disent toujours, d'ailleurs, au départ, ils disent « Mais je ne l'ai pas fait exprès !» Ils savent bien que c'est pas eux, mais nous on leur dit fais attention et tu dois pas faire ça. Ah, c'est comme ça que petit à petit ils apprennent. Il y a un moi, alors il y a une contraction qui se produit. Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais pas attention? Mais comment je peux faire attention puisqu'il n'y a pas de moi qui peut faire attention? Ça arrive ou pas, tu vois ce que je veux dire? Donc ça crée une contraction et ça crée plein de mécanismes qui vont essayer de gérer ça, quoi. Comment je peux faire pour gérer un moi qui n'existe pas? C'est un casse-tête sans nom. Ouais, et donc, on met en place ce qu'on appelle l'ego. Hein. Une histoire personnelle de moi dans le monde qui fait du mieux qu'il peut pour réussir, pour arriver, pas seulement au bonheur, pour réussir dans la vie, pour réussir à ne pas avoir de conflit, pour réussir à ne pas déplaire à ses parents, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est l'ego. Et puis il y a la personnalité. La personnalité, tous les enfants naissent avec une personnalité. On est tous différents. Déjà, il y a des hommes, des femmes, ça crée des choses différentes. au niveau des comportements, au niveau de la façon de percevoir le monde, enfin, etc. Et c'est ça, ces différences-là vont demeurer. Les animaux aussi ont une personnalité, en quelque sorte. Ils sont différents. Vous regardez trois chiens différents, ils n'agissent pas de la même manière, même s'ils ont le même maître. Et ça, la personnalité, elle va demeurer. C'est-à-dire que la personnalité va avoir aussi des attirances, des comportements. Il y en a qui préfèrent la montagne, d'autres la mer. Des trucs tout bêtes comme ça, tu vois, ça va demeurer, évidemment.
Si je jouais du piano et si je m'y avais, je n'aurais pas de savoir jouer du piano.
Tu sauras toujours jouer du piano, exactement. Mais si ça t'a toujours embêté de jouer du piano, t'arrêteras sûrement. Parce que si tu l'as fait pour faire plaisir à papa et maman, c'est sûr que ça va s'arrêter.
Il y avait un truc qui était assez intéressant que je n'ai pas cliqué avant. Elle a dit, je résume ce que j'ai retenu. Comment je sens le non-moi? En fait, elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est en fait, d'habitude, on sent le moi. C'est dans le sens qu'on sent la contraction qui s'y rattache. Mais évidemment, on est très embêté parce qu'on va essayer d'appliquer le même phénomène pour sentir le moi, le non-moi. Alors, on cherche le non-moi, évidemment.
Tu ne peux pas trouver.
Et ouais.
Déjà,
mais
tu ne peux pas trouver le moi.
Oui.
En fait, ce n'est pas comme ça que je vais présenter. Je vais dire, d'une part, essayez d'arrêter d'être. Et lorsque vous essayez d'arrêter d'être, vous voyez, vous êtes tout de suite renvoyé à l'être T. Et cette retrait ne s'appelle pas moi. Elle ne se contracte pas comme ça.
Oui, mais l'expérience de la contraction, on l'a. Enfin, ce que je veux dire, c'est comme ça qu'on expérimente d'habitude le corps, les sensations corporelles, les choses. On sent les choses. C'est ce qu'on habite dans le corps.
C'est pas forcément des contractions.
Non, on sent. Et dans le cas des contractions, par exemple, on va dire ça, je les sens et je les aime pas trop. Je vais essayer
c'est moi.
Et puis le moi, comme je disais par exemple de l'enfant que tout à l'heure. Quand on va lui dire sois un peu responsable et arrête de faire des choses, ben, il va par exemple associer une contraction. Et le truc c'est que donc je vais chercher à sentir les choses. Donc quand je vais commencer à chercher le non-moi, exemple je médite, je dis mon Dieu, il est où le non-moi? Alors je vais essayer de le sentir.
Mais c'est pas la peine.
Ah oui, non, je dis pas que c'est pas la peine, mais c'est
parce que tu crées un non-moi qui n'existe pas.
Oui, oui, oui. Mais je faisais la réflexion parce qu'elle disait, elle disait, mais on va jamais le trouver, en tout cas avec une sensation.
Mais tu peux pas trouver un non-moi.
Oui. Mais c'est intéressant, c'est bien. Parce que je vais pas pouvoir.
Mais tu peux pas non plus trouver de moi.
Oui, je vais pas pouvoir l'investiguer ce truc, avec mes outils habituels.
Pas avec la tête en tout cas.
Ouais. Et pas avec les émotions non plus. Quand non. Je vais dans mes sensations et mes émotions...
Tu ne peux pas l'investiguer du tout.
Oui, je ne vais pas le trouver.
Le non-moi, jamais. Ouais. Tu peux juste trouver l'être T qui ne s'étiquette pas moi.
Et même l'être T, je ne vais pas... J'en ressens les effets, mais je ne vais pas
exact.
La sentir.
Quoi. Oui. Ça, c'est un petit point plus loin.
Bah oui, mais ça me paraît sympa parce que tout ce que tu as fait tout à l'heure en intro, c'est je me dis là, puis... Enfin, je fais ça simpliste. Et puis, à un moment, des fois, pouf, une pensée surgit, et crac, je suis branché dans la pensée.
Exact.
J'ai une émotion qui surgit, je claque, je me fais happer par l'émotion.
Exact.
On peut la laisser passer aussi.
Exact.
Voilà. Et si on tombe dans le yaka, laisser passer, c'est bon.
Non, elle n'a pas dit yaka, elle dit on
peut aussi. Non, non, mais le truc, c'est qu'ensuite, d'habitude, on se fait happer, mais on continue de chercher une sensation, on dit alors, qu'est-ce qu'il y a après?
Parce que, il y a l'idée, de nouveau, que cet après sera bénéfique, apportera le bonheur. Et cette idée n'est pas vue, et cette idée est crue.
C'est toujours l'extérieur.
C'est-à-dire que.
Et c'est pas après, c'est pendant.
Et le temps.
C'est pendant, bien sûr. Mais tant qu'elle est crue, elle est agissante. Tant que tu crois que la terre est plate, tu peux avoir peur de tomber quand tu arrives au bord. Tant que tu crois une pensée, tant que tu crois au Père Noël, tu crois que c'est lui qui met les paquets sous le sapin.
Pourtant, les paquets arrivent.
Et les paquets arrivent quand même, oui. Que tu crois Père Noël ou pas, généralement. Enfin, après, ça dit là un peu. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est... La croyance est agissante. Oui.
Est-ce que ce n'est pas dû au fait que nous avons une histoire? L'histoire de notre famille, l'histoire de nos proches. Nous avons une histoire et les pensées nous semblent surgir toujours attachées par rapport à ce que nous...
Elles semblent surgir, comme tu dis si bien.
C'est la mémoire. Voilà, donc c'est ce qui m'apparaît compliqué, c'est de faire fi de quelque chose que nous partageons quotidiennement.
Non, alors il y a deux choses. Il y a l'histoire factuelle. Je me casse une jambe, c'est un fait. Tu vois, et dans l'histoire de ma vie, je me suis cassé une jambe, par exemple. C'est pas le cas pour moi, mais bon. Tu vois, ça c'est un fait. L'histoire factuelle. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de l'histoire factuelle. Oh là là, et ça fait tellement mal, et c'est encore à moi que ça m'arrive. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et ça, cette histoire-là, elle s'appuie sur des croyances. Elle s'appuie sur...
Par exemple, non.
Pardon?
Le trauma, il y a des gens qui sont traumatisés par rapport à un fait, qu'il ait eu lieu ou pas, la résultante est...
Le traumatisme psycho-émotionnel est toujours lié à des croyances. Pas de croyance, c'est-à-dire pas de pensée crue, pas de souffrance. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu aucune exception à cette règle. Et ça veut dire que c'est dans l'autre sens. Dès que vous éprouvez le plus petit malaise, le plus petit mal-être, jusqu'à la plus grande souffrance que vous puissiez imaginer, ben, quelle est la pensée crue? Par exemple.
Ça
ne
devrait pas être comme ça.
Oui, peu importe. C'est après, il peut y avoir un ensemble de pensées. Et puis, il n'y en a pas forcément qu'une, il peut y en avoir plusieurs. Et généralement, elles apparaissent d'un bloc, quand il y en a plusieurs, d'un coup, en une microseconde. Elles sont crues d'un coup, en une microseconde, dans la même microseconde. Et ça devient moi, mon histoire, à moi. Ça, c'est l'ego. Et c'est ça qui nous maintient comme ça. Pardon ?
Tu peux répéter quelle est la différence entre l'ego et le moi que tu fais ?
Pour moi, le moi, c'est juste la pensée crue, qu'il y a un moi qui agit par lui-même, qui pense par lui-même, qui pose des actes par lui-même.
Et l'ego ?
Et l'ego, c'est l'histoire qui se construit autour de cette pensée.
C'est juste dire que l'ego, c'est des résistances qu'on met en place face des éléments ?
Résistance, je ne sais pas... C'est une forme de résistance, oui, on pourrait appeler ça une forme de résistance. En tout cas, ce sont des pensées associées crues. Alors, ça peut être un refus, mais ça peut être un enthousiasme aussi. Oh, enfin, ça y est, tu vois, j'y arrive enfin, tu vois. Tu vois? C'est aussi...
Je pensais à résistance, si on pense au bébé qui dit pas maîtriser, et... Le monde est mal, et donc, dans ce sens, l'ego peut créer résistance, et donc construire une personnalité là-dessus. Comment on se protège, comment on fait une cuirasse, un peu tout ça. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la réaction naturelle face à un événement, qui va d'ailleurs dépendre de la personnalité, mais qui est sans histoire et sans l'idée d'un moi. C'est-à-dire, naturellement, si quelqu'un te marche sur le pied, tu vas l'écarter. C'est naturel. Naturellement, tout le monde va avoir une réaction pour que ça s'arrête. Alors, ça peut être l'écarter ou s'écarter soi, ou dire « s'il te plaît, arrête ». Mais déjà, s'il te plaît, après, il y a toute une construction, il y a tout un apprentissage, tu vois. Mais naturellement, tout le monde va faire en sorte que ça s'arrête. Après, il y a les conditionnements, l'idée d'un moi, ah mais c'est le patron, il ne faut pas que je lui dise d'enlever son pied, il a tous les droits sur moi, tu vois, ce qu'on peut se raconter comme histoire. Je dis n'importe quoi, hein, je veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire. Et si c'est métaphorique, on peut se marcher sous le pied, hein. D'accord. Mais je pense que bien souvent, en entreprise, d'accord. Mais comme c'est un tel, et comme je risque ma vie, ou on ne sait pas quoi, ou d'être mise à la porte, etc., alors, je me soumets. Ça, c'est construit. C'est pas naturel. Ça, c'est un conditionnement. Et c'est aussi lié à l'idée d'un moi qui doit assurer sa survie par lui-même. Par exemple. Qui craint la mort. Mais s'il n'y a pas l'idée d'un moi, l'idée de la survie ou l'idée de la mort, même si elles apparaissent, n'ont qu'une espèce d'importance. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher une réaction, tu vois, naturelle. Et peut-être la réaction n'aura pas lieu parce que là maintenant, il sera vu autre chose. Par exemple, la souffrance de celui qui est en train de te marcher sur le pied. Alors peut-être il sera regardé droit dans les yeux avec un grand amour pendant qu'il te parle sur le pied. Tout est possible. Non, je ne pousse pas du tout. Parce qu'en fait, parce qu'à un certain niveau, si tu veux, mais c'est comme les parents qui se laissent faire mal par leurs enfants. Combien de fois nos enfants, ils nous pincent, ils nous mordent, ils nous triturent, ils nous montent dessus, on les laisse faire. C'est dans le même sens, tu sais, c'est dans ce même genre de... En fait, il se passe rien, il n'est pas en train de vouloir me faire du mal. Il est en train d'exprimer sa souffrance ou d'exprimer comme il est avec sa croyance dans son moi. Donc on ne sait pas ce qui va apparaître, tout peut apparaître. Mais dans tous les cas, ce sera libre. C'est-à-dire, si je le jette, ce sera libre. J'en ferai pas une histoire. Il me met à la porte derrière, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et je le regarde droit dans les yeux avec plein d'amour, c'est libre. J'en fais pas une histoire. Je dis, oh là là, super, qu'est-ce que je suis bien. J'en fais pas une histoire. Ça l'a regardé avec amour droit dans les yeux. Et quand c'est fini, c'est fini. Puis s'il m'en parle le lendemain, je dis, ah bon, j'ai fait ça moi, je sais plus. Tu vois? Ça, c'est une différence.
Il faut avoir une sacrée confiance. Hein.
Non. L'idée qu'il faudrait avoir confiance ou pas confiance, c'est pas là. La question se pose pas. C'est-à-dire que c'est pas, il faut avoir une sacrée confiance. Tu es la confiance, mais... Donc la question ne se pose pas.
Bah, tu ne le réalises pas.
Il faut le réaliser.
Qu'est-ce que je ne réalise pas?
Toi, oui, mais nous, nous. Tu es la confiance, mais moi, je ne le réalise pas.
Parce qu'il est plus mais tu le sais si tu regardes.
On n'a pas confiance. Ouais. C'est beaucoup plus facile.
On a appris à ça,
de croire que nous n'avons pas confiance en nous que de se dire « je suis la confiance ».
Et mais attends, à partir du moment où tu crois que tu es un moi et que tu dois faire attention parce que sinon il est arrivé des choses graves et que tu es responsable de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, comment tu peux avoir confiance?
Impossible.
Tu es dans la peur tout le temps. C'est-à-dire que l'idée d'un moi cru crée la peur. Crée plein de peurs. Pas toutes les peurs, mais plein de peurs. Bah, la peur instinctive demeure, en tout cas, au moins celle-là.
Donc ça, c'est mécanique même, automatique. Comme quand tu retires ta main, quand tu la mets sur le feu, sans faire exprès, c'est un réflexe. Quoi.
Oui, je ne sais pas si toutes les peurs proviennent d'un moi. J'aurais tendance à dire oui aussi, mais je n'en suis pas certain.
Oui, peut-être.
Pour moi,
non, pas la peur du
fait. Est-ce que la douleur physique est liée à un conditionnement ou une croyance aussi?
La douleur physique est existentielle, la douleur. Je vais distinguer bien sûr la douleur de la souffrance, hein. Mm-hmm. La souffrance psycho-émotionnelle, la douleur physique pure. La douleur, elle est physiologique.
Donc ça,
je te donne un coup, ça va faire mal. Généralement, hein, tu vois, c'est à peu près tout le monde, quoi. Alors, bien sûr, à un niveau, si on regarde de beaucoup, beaucoup plus près, en réalité, la douleur n'existe pas. La douleur, c'est juste des influx électriques rapides et fréquents qui sont interprétés par le cerveau comme de la douleur. Mais bon, on va rester au niveau habituel existentiel. La douleur, elle est existentielle, elle est corporelle, voilà, point. Oui. Par contre, l'idée que je me fais de la douleur, oh, ça fait mal, oh, et combien de... ça va durer, j'en ai pour des années, peut-être jusqu'à la fin de mes jours. Il va encore falloir que je prenne des médicaments qui vont faire mal à l'estomac. Ça, c'est l'histoire. Et celle-là, c'est des pensées crues. Ça crée ce moi, tu vois, qui souffre.
D'ailleurs,
ça s'effondre.
La douleur, quand on l'expérimente en l'accueillant, elle est moins douloureuse.
Quand elle est accueillie, elle est un peu moins douloureuse, mais même si elle est douloureuse, elle peut être amusante en même temps.
Amusante, je dirais pas.
Laisse calmer.
Ça pèse.
Moi, j'aimerais bien connaître un peu ton histoire.
Oh,
c'est du moi. Histoire du moi.
Un peu. Je suis né il y a longtemps, dans un corps, Le corps est encore vivant. J'ai cru longtemps en un mois, j'y crois plus. Je ne savais pas quoi dire.
Après un long travail.
Ah ouais. Mais ça n'a pas besoin d'être long comme moi.
Ni comme nous.
Sincèrement, ce que je peux dire de ça, c'est que au moment où j'ai réalisé, je vais distinguer comprendre, voir et réaliser. Au moment où j'ai réalisé l'absence de moi, ce qui est revenu en boucle pendant une quinzaine de jours, c'est « Mon Dieu, mais comment j'ai fait pour parler plus tôt ? Mais c'est tellement bête ! Mais ça se tirait une balle de simplicité, tu vois. C'est évident. On l'a tout le temps sous les yeux, tu vois. Là, il y a une main. Qui peut en douter ? Il n'y a pas de moi. Mais qui peut en douter ? Comment on peut croire en un moi qu'on n'a jamais vu ? Et quand on regarde, il n'y en a pas. Mais on croit quand même que si, si, il y a moi. Et pourquoi on y croit ? Parce qu'on ne veut pas lâcher. Tu comprends, moi, avec tout ce que j'ai fait, moi, tu vas pas me faire croire que ce n'était pas moi.
Ça, c'est un sketch.
Mais c'est vrai, les gens, ils réagissent comme ça. Puis à l'autre, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas qu'il n'y a pas de moi. L'une autre des raisons, c'est que quand on s'approche et qu'on voit, mais c'est vrai, il a raison, il n'y a pas de moi. Oh, la peur nous saisit. Le vide abyssal, je vais m'effondrer, il n'y aura plus de moi, pas me liquéfier, disparaître, tu vois, l'anéantissement, la mort. Mais c'est juste une idée, c'est juste une peur qui passe liée à des pensées. En réalité, c'est pas vrai, la preuve, je suis toujours là. Je ne suis pas le seul dans mon espèce. Être avec. Regarder, être avec. Regarder. Ce qui apparaît, en mesure que ça apparaît, l'idée d'un moi, regardez la peur. Regardez la peur, déjà dans ses sensations corporelles. Voir qu'en fait, rien de grave n'arrive. Quelle que soit l'émotion qu'on traverse, les sensations corporelles sont très faibles.
Je peux dire quelque chose. Ok, quand on a peur, moi je ne me rends pas compte. Oh putain, ça j'ai pas vu. Et c'est trop tard, quoi.
Oui.
Comment ça se fait que vous rentrez pas dedans ?
Par habitude ?
C'était pas difficile là, à ce moment-là. J'aurais pu le faire.
Il y a un refus ?
Et je n'ai pas voulu.
Il y a une mise à distance qui s'est produite, tu veux dire ? Comment ça se passe ?
Elle m'a parlé d'un truc et je dis, merde, elle a raison. Putain. Ça, je ne peux pas faire ça. C'était trop douloureux. Mais si j'avais fait le pas.
Donc c'était trop douloureux, je ne veux pas le voir, donc il y a une mise à distance. Alors regarde le refus. Regarde le refus.
Le déni, même.
Parce que tant qu'il n'y a pas.
Le refus est douloureux. Oui, c'est la douleur que je vais avoir.
Non, le refus de la douleur. Le refus. Le refus n'est pas douloureux. C'est je ne veux pas le voir. C'est ça le refus. Regarde.
Mais si je refuse, je n'ai plus mal.
Oui!
Momentanément,
parce qu'en fait la douleur elle est là en fond, hein, ça joue quand même. Mais peu importe, si tu ne peux pas laisser venir la couche d'en dessous tant que la couche du dessus n'a pas été regardée. Elle ne va pas se laisser venir parce qu'il y a le refus qui va la repousser tout le temps. Donc d'abord, voir le refus. Je ne veux pas. Et pourtant je veux. C'est ce qui va te permettre de regarder le refus. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse qui dit, mais je ne peux pas m'en sortir sans le voir. Ça ne peut pas.
Depuis tout le temps que j'aurais dû. Moi, je ne m'en reviendrai pas. Et là, c'était très clair. Très clair. Je ne lui en ai même pas parlé. Je vais parler après. Parce que bon, on pleure, on a des émotions. Ça ne va pas. Dans 10 ans.
Alors, si jamais ça tourne en boucle, tu peux aussi simplement regarder le fait que ça tourne en boucle. La consigne est toujours la même, entre guillemets, la consigne. Être avec ce qui arrive là, maintenant, tout de suite. Pas ce qui est arrivé il y a une seconde. Maintenant.
Ouais.
Et si ça change, tu changes. Et comme ça, parfois, tu peux passer 10 étapes, tac, 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 avant de trouver celle que tu vas pouvoir vraiment regarder. Et quand tu regardes celle-là, après les autres, c'est facile. Beaucoup plus facile.
C'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Mais du coup, je t'ai interrompu, je ne sais plus où j'en étais. Mais c'est pas grave, tu as raison, Janine. Anne-Elisabeth, c'était quoi? De quoi on parlait? Voir, réaliser.
Comment ça a lâché? Ouais.
Comment ça a lâché? Oui, alors ce que je disais aussi, c'est qu'une chose qui est constante, c'est la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Dès l'instant où on croit en un voie, il y a de la peur. Et cette peur, elle maintient, en plus, elle maintient la croyance dans le moi.
Et puis la peur fait engendrer la douleur.
Éventuellement.
Parce qu'on a une excuse, après peur, puisque ça fait tellement
mal. Peut-être, dans tout quoi, je ne sais pas. Dans l'absolu, je ne sais pas. Et donc, si vous voulez, en fait, il y a des mécanismes comme ça. On tient à l'idée d'un moi, on tient. Et on a tellement peur de la peur qu'on ne veut pas la regarder en face, etc. Qui font que cette idée d'un moi se maintient, alors qu'en fait, s'il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, quoi. C'est comme le Père Noël. Et alors, en fait, ce qui se passe, et ça c'est important à entendre aussi, c'est que tout ce qui se passe, la réalisation, ce qu'on appelle la réalisation de l'éveil, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi. La première, c'est ça. Réaliser qu'il n'y a pas de moi. C'est-à-dire la fin d'une croyance. Abandonner une croyance souffrante. Punaise, mais qu'est-ce qu'il faut comme effort pour abandonner quelque chose qui nous fait souffrir depuis tellement d'années? Ça n'a pas de sens, quoi.
Non, ça n'a pas de sens.
Et c'est juste une croyance. Si encore c'était une vérité, si encore c'était un objet matériel qui nous appartient et auquel on tient, même pas, c'est une croyance. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, ça continue. C'est un vrai étonnement. C'est un vrai étonnement.
Je vais te dire, c'est à cause des autres.
À cause des autres. Ah, c'est sûr que si on vivait dans un monde où, si on vivait dans un monde où tout le monde sait qu'il n'y a pas de moi, on aurait du mal à croire en un moi.
Les autres moi nous ramènent à notre moi.
Je reviens sur ton il faut rester avec. Et alors, quand on vient négativement,
être avec.
On ne reste pas avec.
Pardon?
Qu'est-ce qui fait qu'on ne reste pas avec? C'est le travail que j'ai fait ces derniers temps, en fait. Et moi, la solution, enfin, le point que j'ai, c'est quand on a une sensation, une émotion, machin, soit elle est acceptable, soit quand elle devient trop forte, admettons, j'arrive trop près du quelque de chaud, je me recule. Et des fois, dans l'état d'une émotion, ben, je veux bien qu'elle soit OK, mais pas trop forte, mais même une positive. Je veux pas que ça soit trop joyeux, je veux pas que ça soit trop souffrant.
Ben regarde le « je veux pas
».
C'est le refus.
Mais en fait, une fois d'autre, même au niveau des sensations, il y a des sensations que je laisse aller, et puis à certaines, après, je commence à les contrôler. Si on va le rester avec, c'est quand je vois que je commence à couper les robinets, là, c'est au contraire rester avec cette sensation.
Non. Non. Au moment où tu vois que tu commences à couper les robinets, reste avec, couper les robinets. Change.
Oui.
C'est la fluidité qu'on a.
Rester avec, oui, voilà. Il faut beaucoup de fluidité.
Ah, mais ça, c'est mal, alors je dois.
Non. Ouais. C'est vraiment être avec ce qui apparaît au moment précis, à la seconde précise, comme je disais tout à l'heure. Ça peut changer 10 fois en 10 secondes. Ouais. Tiens, à un moment où tu vois qu'il y a un mouvement à la sensation trop forte, donc de refus de l'intensité de l'association, intéresse-toi au refus. Change. Ce qui se présente maintenant, c'est le refus d'une sensation forte.
Si c'est
donc c'est ça qui a besoin d'être regardé. C'est ça qui t'invite au regard. C'est ça qui invite au regard, parce que même le « te » est de trop. Parce que ce n'est pas toi qui vas regarder, c'est le regard qui regarde. Hein. Les mots sont trop pauvres, hein. Vraiment, vous n'arrêtez pas au bout. Vous ne pouvez pas regarder. Vous ne pouvez pas faire attention. Il n'y a pas de voix.
En fait, quand je fais l'exercice, à chaque fois que je mets l'attention sur ce qui... ça disparaît, ça pousse un peu plus loin, mais ça disparaît.
Oui, ça va où?
Bah, ça se rebouche comme ça en vague, mais ça, effectivement, ça avance plus.
Ok, regarde les vagues. Et quelque part, là, maintenant, tu te mets à sourire. Ça, tu vois quelque part, il y a un jeu. Et ça enlève le drame. Mais ça, déjà, c'est tout le bénéfice. Sinon, on se prend la tête.
En fait, si je suis tout le temps avec ce qui est, il n'y a plus de séparation.
Il n'y en a jamais eu. Mais il est vu qu'il n'y en a pas. Oui, l'idée de séparation n'apparaît plus. l'idée de séparation n'apparaît plus. C'est une idée, la séparation. Là, c'est évident avec l'espace, il y a un dedans et un dehors, mais pas pour l'espace.
En fait, être attentif, ça se fait tout seul, il n'y a pas de moi qui doit être attentif.
Exact, exact, exact. C'est un cadeau, c'est offert, c'est ce qui est, qui s'offre à lui-même en tant qu'être attentif. Ou ne pas être attentif.
J'aime bien cette idée d'espace, du nul, et que c'est l'espace là, là et là, et qu'on ait l'espace, et puis on ne se casse plus la tête.
Exact.
Ce qui est incroyable, c'est que tout devant nous est délimité. Concrètement, je veux dire, on parle ici, bah oui, on a des poutres, c'est délimité, l'espace est délimité, et c'est l'idée qu'on passe au travers de ces choses qui sont clairement devant nos yeux limitées. Hein, on traverse dans la rue, c'est limité par les passages piétons, enfin, tout a une ligne pour bien nous dire, voilà, c'est balisé, et voilà. Donc, on a dans notre structure mental quelque chose qui est délimité par...
Est-ce que le vent est limité?
Mais le vent ne l'est pas. Évidemment, il passe au travers des vitres. Voilà. Mais cette notion-là ne nous est pas donnée. Elle ne nous est pas donnée. Il faut un beau jour...
Essaye d'arrêter d'être. Est-ce que l'être-té est limité?
Non. Évidemment, non. Puisque je suis même capable de créer la pensée que ça peut me faire peur.
Qui crée la pensée?
Ce fameux moi qui est...
Ah, Daniela. Est-ce que tu vois un moi qui crée une pensée ou est-ce qu'il y a une pensée qui apparaît?
La pensée apparaît. La formule est juste que la pensée apparaît.
Alors, pourquoi l'attribuer à un moi que tu ne vois pas?
Mais probablement... C'est vrai, je viens tout de suite de comprendre ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est dans cette...
Voilà, c'est une croyance, tu as dit le mot. Je crois que. Et si tu lâches cette croyance?
Bah, tout va bien.
C'est génial! C'est exactement ça. Vous voudriez faire une petite pause? Voir, comprendre, réaliser. Faut me rattraper parce que moi ça va dans tous les sens, hein. Je m'en souviens plus. Comprendre, c'est intellectuel. C'est-à-dire que tu regardes et puis tu dis, ah oui, tiens, c'est vrai, j'en ai jamais vu de moi. Puis c'est vrai que les pensées, elles apparaissent. Et c'est vrai qu'en réalité, si je regarde de près, faut regarder de près bien sûr, en fait, j'ai jamais rien choisi, les choix se sont faits à un moment donné. Même si je me suis torturé la tête pendant des jours et des jours, à un moment donné, le choix s'est fait, etc. Tu vois, ça c'est une compréhension intellectuelle. Le voir, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une éclaircie, mince, c'est vrai, il n'y a pas de moi. Comme une éclaircie, oui, une prise de conscience, une éclaircie dans le ciel sombre, tu vois, dans un éclat de lumière, c'est vu. Et puis, une demi-heure après, ou trois jours plus tard, on croit de nouveau en un mois.
C'est revenu subrepticement,
si on veut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérience de vision de l'absence de moi. Mais ça n'a pas été vu...
Il y a encore des croyances
associées, je veux dire. C'est plus juste. Et puis, la réalisation, c'est que... Punaise, mais... Comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt? C'est tellement évident. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, quoi. Il n'y en aura jamais. Et c'est une fois pour toutes. Ça, c'est une fois pour toutes. Après, il peut revenir la pensée, moi. Parce que c'est une pensée. Elle peut revenir comme n'importe quelle autre pensée. Mais puis il peut y avoir un doute. Mais est-ce qu'il y a un moi? Non. C'est évident que non. Donc ça finit. C'est, au bout de 15 jours, c'est fini. Ça ne revient plus. Parce que...
En 15 jours.
15 jours, c'est un temps maximum, à mon avis. La pensée moi peut réapparaître un certain temps, mais elle ne peut plus être crue. C'est ça la différence. Le doute par rapport à l'existence d'un moi peut revenir, mais ça ne peut pas être cru, ça ne tient pas. Parce que dès que c'est vu, parce que là, à partir de là, le regard se pose sur les choses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, beaucoup plus automatiquement, ben ça s'effondre, c'est vu. Tu regardes une demi-seconde, tu vois bien que ça n'a pas. J'ai oublié de mettre mes chaussettes ce matin. Ah non, elles sont là. C'est comme ça, tu vois. Puis au bout de la troisième fois, bah ça va, t'es bon. Tu sais que tu les as mises, quoi. T'as pas besoin, tu comprends ce que je veux dire. Forcément, ça, la pensée arrête de revenir.
C'est comme un top.
Oui, tout à fait. Il y a la pensée moi qui revient tous les matins. Elle disparaît dans les instants de bonheur tranquille. La nuit quand on dort. Et elle revient, pof. Mais elle est crue de façon automatique. On y croit sans jamais avoir regardé si c'était vrai. Mais l'exemple de tout à l'heure, c'est parfait. C'est le drame de la mort. Mais est-ce que tu es sûr que c'est un drame de mourir? Ah non, pas du tout, c'est pas un drame. Mais alors pourquoi croire au drame de la mort? Mais c'est pareil, la croyance en un moi, c'est ça. C'est juste une croyance. Qui n'est pas regardée pour ce qu'elle est. Une pensée crue. Par personne, puisqu'il n'y a pas de moi pour la croire. C'est automatique, enfin ça arrive.
Parce que, en fait, le non-moi, c'est l'absence de souffrance.
Réaliser l'absence de moi est l'opportunité de la fin de toute souffrance.
Oui.
Parce que, et pour moi, c'est probablement la grosse différence entre voir et réaliser, c'est que quand on a vu, mais que ce n'est pas réalisé, c'est qu'il y a des croyances associées à l'idée de l'éveil. À l'idée de l'éveil. On croit que l'éveil va apporter telle et telle et telle chose, que ce sera comme ceci, comme ceci, comme cela. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Rien. Seulement ce que d'autres ont dit, ce qu'on a pu lire. Mais ceux qui en parlent et ceux qui écrivent, peut-être qu'ils en parlent ou qu'ils en écrivent 10 ans plus tard. Ou bien qu'ils zappent le moment qui suit l'éveil et les années. Sauf que quand même, il y en a plein qui disent l'éveil, c'est pas une fin, c'est un commencement. Il y en a plein qui disent après l'éveil, la souffrance peut encore apparaître. Il y en a plein qui disent les choses s'effondrent petit à petit. Et Ramana Maharshi, pour le citer, puisque c'est l'une des références, a dit l'éveil, c'est comme de couper le moteur d'un bateau. Il continue encore un moment sur son air. Ça veut bien dire que tout s'est pas fait là, à ce moment précis. Ça veut dire que l'ego, c'est-à-dire tout ce qui est lié à cette idée d'un moi, toutes les croyances qui se sont venues se rajouter, toute l'histoire personnelle, toute ces, une partie de conditionnement aussi, ne s'effondre pas tout d'un coup avec l'éveil. Il y en a une partie qui s'effondre, et le reste aura besoin d'être vu. Par exemple, la pensée « moi » peut revenir, le doute à propos de l'existence d'un « moi » peut revenir. Quelques jours, pas longtemps. Mais je vois ce que je veux dire. Ben, ça fait partie de cet ego, le doute. Est-ce que j'ai vraiment vu? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, voilà, par exemple. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Il y a des mécanismes qui sont mis en place depuis tellement longtemps qui vont se jouer de façon automatique. Tout simplement parce que c'est dans la nature des choses. Quand il y a un conditionnement, il se met en route tout seul. Hein? Simplement, par contre, une fois qu'il a réalisé qu'il n'y a pas de moi, quand il y a quelque chose qui dérange, qui apparaît, paf, le regard se pose dessus, beaucoup plus vite, beaucoup plus naturellement, spontanément, parce que c'est notre nature d'être regard. Nous sommes regard. Ça se fait quasiment tout seul. Et ce qui apparaît, de l'ordre de la névrose, entre guillemets, de l'ordre de l'ego, est vu pour ce que c'est, des pensées crues, erronées. Donc ça s'effondre. Le plus souvent, dans la seconde. Mais il peut encore avoir parfois des choses qui collent parce que c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, à moi, enfin qui tenaient vraiment à cœur à moi. Et même si après avoir réalisé qu'il n'y avait pas de moi, eh bien, il est su que ce qui colle est faux, même s'il est su que c'est lié à des pensées, tant que la pensée n'est pas vue, ça colle. Donc dans la plupart des cas, la pensée est vue, ça s'effondre. Il arrive parfois que ce ne soit pas vu tout de suite. Alors, il y a mal-être, il y a souffrance, entre guillemets, il y a mal-être. Et ça peut durer jusqu'au moment où la pensée est vue. Et au moment où elle est vue comme étant erronée, ça s'effondre et tout s'effondre dans un éclat de rire. Ça veut dire qu'avec l'éveil, ne croyez pas que ça va être le nirvana à tout jamais. C'est faux. C'est pas ça du tout. Et l'autre chose aussi, c'est que avec la réalisation, on croit que ça y est, c'est le bonheur constant. Je vais faire l'expérience de l'amour, de la joie, de la paix, du bonheur, etc. C'est faux. Je suis le bonheur, je suis la paix, je suis la joie, je suis l'amour, je suis la sérénité. J'ai pas besoin d'en faire l'expérience. Pour l'être, que j'en fasse l'expérience ou non, n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Il peut apparaître n'importe quoi ici, qui est jugé chez vous agréable ou désagréable. Ici, c'est pas jugé agréable ou désagréable. Donc ça arrive, et tout est amusant, étonnant, merveilleux, aimé, et ça arrive. Que ce soit de la colère, de la tristesse, être blessé, de la peur, ou de l'amour, de la joie, parce que ça arrive aussi, bien sûr. Peu importe, tout est bon. Ou de la douleur, ou du plaisir. Tout est je suis l'accueil même. C'est pas que je ne danse pas avec ça. C'est la danse de la vie qui se manifeste comme ça. Mais comme il n'y a plus de critique portée sur ce qui arrive, ben la tristesse est douce et elle est aimée. La colère est forte et elle est aimée. C'est drôle.
La peur, c'est pas drôle.
Mais la peur, c'est amusant d'avoir peur.
Ça c'est clair, parce que ma fille, je vois bien que c'est moi, elle a 2 ans, qu'elle passe son temps à essayer de se faire peur. C'est quelqu'un qui n'est pas peur, et je vois bien qu'elle cherche plus d'occasion de repousser l'expérience plus loin.
Voilà, bah pourquoi pas, oui, oui. Et puis, et en même temps, si tu veux que la colère apparaît, ou bien dès qu'elle est sortie au bout de 3 secondes, la pensée se pose aussi, tiens, ça se met en colère. À la fois, c'est drôle, puis tout d'un coup, ça voit, ah punaise, ça a cru telle pensée. Et ça, c'est fini, la colère s'effondre, il n'y a plus rien. Et pareil pour la peur, ou pareil pour tout le reste. C'est-à-dire que ça passe très vite.
Les émotions, pour moi, sont liées à des croyances.
Oui, oui, la plupart.
Ouais. Donc, le moi, c'est une croyance fondamentale, elle est plus là.
Oui.
Mais les autres croyances,
oui,
restent. Il y a des
petites... Beaucoup restent, pas toutes, mais beaucoup restent.
Voilà, c'est oui. Pas que toutes les croyances.
Toutes les croyances ne se font pas d'un
parce
coup.
Parce qu'on fonctionne comme ça, ça fait partie de la
voilà.
Ça.
Voilà.
Donc les émotions continuent à être là parce qu'il y a des croyances. Mais la croyance fondamentale n'est plus là. Donc,
la croyance qui tenait toutes les autres s'est effondrée. Autres, qui a créé toutes les autres aussi
voilà,
s'est effondrée.
Donc disons que les émotions s'évaporent aussi un peu. Parce que
voilà, tout à fait, oui, bien sûr.
Et s'effondrent un peu parce qu'il n'y a plus rien qui les tient.
C'est-à-dire que il y a besoin que la pensée qui les fait réapparaître soit vue. Il y a aussi des choses qui apparaissent, qui ne se dérangent pas, qui sont des conditionnements, qui sont liés à l'ego, mais comme ça ne dérange pas, il n'y a même pas un regard qui se porte dessus, donc ça peut continuer, tu vois.
Donc la colère, par exemple, est liée à une croyance que quelqu'un a fait quelque chose, etc.
Pas forcément, mais dans l'ensemble, oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mouvement de colère. Bah, si tu marches sur le pied pour la 3e fois, il est possible qu'il y ait un mouvement de colère sans penser, tu vois.
Mais,
ouais, tu vois ce que je veux dire.
C'est
une réaction, c'est un mouvement de colère, oui. Mais surtout, c'est libre. C'est-à-dire que tu vois, ça va sortir un coup.
Comme un animal. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis c'est fini. On n'en parle plus. Tu vois, c'est oublié.
Oui, ça pose tout le problème de la mémoire des choses que l'on a subies et que l'on n'oublie pas. C'est oublié, c'est oublié.
C'est-à-dire que si je fais un grand effort, je vais peut-être pouvoir me rappeler de certaines choses, des traumatismes de mon enfance et tout ça. Mais il va falloir vraiment que je cherche.
La rancune, on parle de colère. Là.
Ah ouais, non, la rancune, moi je ne connais pas. De toute façon, ça fait longtemps. Je n'ai jamais vraiment beaucoup connu, mais surtout si jamais il y a une rancune qui apparaît. Parce que ça peut. Ça peut, pourquoi pas. Si quelqu'un a souvent été rancunier, après l'éveil, forcément, la rancune ne va pas forcément s'effondrer tout d'un coup. Peut-être ça peut apparaître. Mais à ce moment-là, le regard se porte dessus. Parce que la rancune, c'est su que c'est faux, entre guillemets, que ce n'est pas la vérité de ce qui est. Donc le regard se porte dessus. Et alors la pensée liée à la rancune, qui crée la rancune, va être vue. Elle va être vue comme étant fausse. Tu vois ? Alors je ne sais pas quelle peut être une pensée liée à une rancune, mais Je sais pas, moi, c'est vraiment un vilain, il n'aurait pas dû faire ça, je sais pas, j'ai pas trop d'idées.
Mais... La trahison,
c'est... Il m'a trahi, c'est un salaud, voilà. Il m'a trahi, c'est un salaud, je lui en voudrais jusqu'à la fin de mes jours. Mais qu'est-ce qu'il a... Mais ça veut dire qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire.
C'est toujours pareil, la rancune, c'est une question de mémoire, si t'as une mauvaise mémoire.
Oui, c'est la mémoire.
Oui, mais il y a des pensées crues.
Mais je n'oublie pas.
Oui, c'est la même chose. Non, mais, c'est-à-dire, il y a l'idée qu'il y a un autre... un moi autre qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Mais il n'y a pas de moi. Donc c'est pas lui qui l'a fait. Et où est-ce que c'est écrit qu'il n'aurait pas dû le faire? T'en sais rien. Donc quand ces pensées sont vues, oui, il y a un organisme qui a fait quelque chose. Mais c'est pas un moi. Est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire? T'en sais rien. Est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire? Non, parce qu'il n'y a pas de moi. Mais... c'est arrivé de soi-même, sans personne pour le faire. Qu'est-ce que tu peux y trouver à redire? Il pleut. Bah oui, il pleut. C'est arrivé. C'est vu comme étant sans substance, ça s'effondre. C'est fini. La rancune s'efface avec.
Mais la personne a fait quelque chose, c'est une chose, mais là, celui qui a reçu, il a aussi fait quelque chose, il a dit non, c'est pas ce que je veux, et ceci, et cela.
Oui,
et
ça, il y a un refus.
C'est bien vu, parce que le minimum de responsabilité, c'est d'arrêter de voir le problème ailleurs et de regarder l'émotion qui est montée chez moi, parce que c'est celle-là que je vais devoir dégager, pas l'autre.
Hein. Oui, mais je me suis senti trahi, j'ai de la rancune, etc. Oui, je refuse ce qui est arrivé. Oui.
Moi, pas à l'extérieur.
Ce qui émerge ici.
Oui, c'est ça. Dans ce corps-là.
Oui, mais il n'y a pas d'identification avec. C'est-à-dire que si quoi que ce soit apparaît ici, c'est pas à moi que ça arrive. C'est pas moi qui le vis. Ça arrive. Enfin, c'est vécu ici. Ça arrive en moi, pas à moi. Moi, je suis le fond. C'est qui manque le moins. Je suis le fond. L'amour, la paix, le bonheur, qui ne se connaît pas lui-même, qui n'a pas besoin d'être expérimenté pour être. Et au sein duquel tout apparaît. Sans séparation. Je ne suis pas séparé de toi, et je ne suis pas séparé de la colère, je ne suis pas de qui peut apparaître, en moi ou chez toi d'ailleurs, etc., etc. C'est-à-dire que c'est à la fois pleinement vécu et libre. L'exemple que je prends beaucoup en ce moment, c'est comme quand on a un bébé dans les bras. On est là, oh c'est tellement mignon, c'est tellement attendrissant, on est complètement avec lui, plein d'amour, de délicatesse, de tendresse, de sourire, zéro distance. Complète implication, aucune identification. Être comme ça avec tout ce qui apparaît en soi. Le refus, la colère, la rancune, peu importe. Le désir de vengeance et tout le reste. Être simplement comme ça. Viens mon bébé.
Et tu arrives à le faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Non.
En tout cas, c'est possible.
Ça n'a pas d'importance. Non, pas immédiatement tout le temps. C'est ce que je dis. Après, la réaction, c'est un commencement, c'est pas une fin. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, des fois, j'arrive pas. Mais j'y arrive pas, c'est accueilli. Il n'y a pas de problème avec le fait de ne pas y arriver. Ça colle. Bah, ça colle.
Tout devient simple.
Oui, ça oui.
Tout est simple.
Tout est en réalité simple. Je sais la simplicité même. Ça, je le savais pas avant de le dire, non, c'est pas certain. Mais si.
En même temps, le corps mental, là, il continue d'avoir des limites. Parce que je veux dire, il y a aussi une tension là-dedans. Parce que l'être, il n'est pas limité. Mais le corps mental, là, il a des limites. Il a des limites. Il a ce qu'il peut apprendre, je ne parle même pas de ses préférences, mais il a ses limites physiques, il a chaud, il a froid.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et il y a aussi cette distance-là.
Cette distance?
Oui, parce que je veux dire, l'être, il se sent, enfin, c'est-à-dire qu'il est perçu comme pas limité, mais encore là, il est limité. Enfin, il y a un moment, il va se fatiguer, il est réactif, il apprend.
Et alors, c'est quoi le problème?
Il apprend plus ou moins, notamment.
Et alors?
Voilà. Là, c'est intéressant à être vu aussi, c'est pas moi, ça m'a.
Mais quel est le rapport? Je crois que je vois pas.
Je le vois plus.
Je comprends mieux pourquoi je le vois pas.
manière illimitée, enfin perçue, voilà, de manière illimitée de l'être,
mais l'être, l'être
dans lequel c'est perçu, c'est pas limité.
L'être ne se définit pas comme illimité. L'être ne se définit pas.
Oui, oui, oui.
Ni limité, ni illimité. Ni l'un ni l'autre. Il ne se définit pas. Il est. Il apparaît, c'est beaucoup dire, les mots sont trompeurs, mais je dirais il apparaît au sein d'un organisme corps mental, mais il n'est pas limité pour autant. Tu n'es pas l'organisme qui possède une conscience, tu es la conscience au sein duquel apparaît un organisme, au sein de laquelle apparaît un organisme.
Oui, et la plupart du temps, j'expérimente la conscience dans l'organisme-là, ou à travers le moyen de...
Parce que tu es limité par tes croyances. Parce que tu limites la perception de l'être.
On va dire qu'elle est concentrée autour de ça.
Parce qu'il y a la croyance « je suis moi », avec la croyance « je suis ce corps ». Cet organisme. C'est associé, tu vois, il y a un amalgame de choses, c'est des croyances.
J'ai un exemple concret qui s'est passé la semaine passée. Je suis kiné, je faisais un exercice à une personne qui a un problème de dos. Après ça, elle a très mal. Donc je me sens très mal. Je me dis que j'ai fait une erreur.
Bah oui.
Je me sens coupable. Donc, comme si c'est ma faute. Mais ce qui est, tu dis ce qui est. Ce qui doit arriver à finir. Ça veut dire que dans cette vision-là, il fallait que l'exercice se fasse, il fallait qu'elle ait mal, il fallait que je me sente...
Je dirais pas il fallait, mais c'est arrivé. De fait, ça s'est produit.
Oui. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Évidemment, moi, ça me renvoie
en tant que...
incompétence...
Tout ça, ce sont des pensées crues.
Oui.
Je suis incompétente.
Oui.
J'ai mal agi. J'aurais pas dû. Ce sont des pensées. Si tu ne pouvais pas les avoir, il n'y aurait pas de problème. Si ces pensées n'apparaissaient pas, n'étaient jamais apparues.
Il n'y aurait pas de problème, mais la personne a mal quand même.
La personne éprouverait une douleur, mais toi, tu irais bien. D'accord ? On va s'occuper de toi d'abord, ok ? D'accord ? Si ces pensées apparaissent, mais qu'elles ne sont pas crues. Elles passent comme des nuages dans le ciel. Pas de problème non plus. Donc il faut qu'il y ait des pensées crues pour qu'il y ait un problème. Pour qu'il y ait une souffrance, un mal-être. D'accord ?
Est-ce possible de ne plus avoir ça ?
Oui ? Je ne suis pas le seul à le dire. Oui, puisque ce ne sont que des pensées crues. Qu'est-ce qui prouve ?
Il n'y a que les crues.
Qu'est-ce qui prouve ? Je vais même aller plus loin que ça. Tu dis, je lui ai fait faire un exercice. Comment ça s'est passé, ça ? Non, mais qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait faire cet exercice ? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait faire cet exercice ?
J'ai pensé que c'était bien.
Tu as pensé ça ?
Oui.
Et d'où te vient cette pensée ?
Tu as appris de son métier.
Laissez-la répondre, elle.
D'où vient cette pensée ? Elle m'a traversée comme ça.
Donc tu as pensé cette pensée ou elle est apparue ?
Elle est apparue.
Donc tu n'as aucun pouvoir sur le fait qu'elle soit apparue ou pas ?
Aucun.
Quelle responsabilité peux-tu avoir sur une pensée qui apparaît en dépit de toi-même?
C'est-à-dire que ma responsabilité, c'est que j'y ai cru, que c'était bon. J'aurais pu...
Et alors, comment ça se fait que tu as cru que c'était bon? Est-ce que tu as choisi de croire que c'était bon pour elle?
Non.
Ça s'est fait de soi-même. Quelle responsabilité as-tu sur un choix que tu n'as pas fait et que tu ne peux pas faire?
Aucune.
Comment c'est maintenant?
C'est
plus doux. Eh oui. Eh oui. Et maintenant, si tu penses à cette femme qui a mal dans le dos suite à l'exercice, avec cette douceur, comment tu te comportes?
C'est qu'elle est allée voir son médecin lui a dit que c'était normal que suite à l'opération, qu'il avait oublié de lui dire. elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, donc il n'y avait aucune contre-indication à des exercices, quoi que ce soit, qu'effectivement, il avait oublié de lui dire qu'elle pouvait avoir un entraînement. Donc, effectivement, j'ai fait.
Mais donc, tu t'es fait peur et tu as souffert pour rien.
Pour rien.
En plus, t'en as la preuve.
En plus.
En plus. Donc, ça prouvait que c'était vraiment que des pensées crues, inutiles.
Tout à fait.
Une souffrance inutile.
C'est le problème de responsabilité.
D'accord. Mais est-ce que tu vois, maintenant, revenons quand même. Oublions le médecin. Tu es avec cette douceur.
Et que je
ça s'est imposé. Oui. C'est arrivé. On ne peut pas dire « je ne suis pas responsable », il n'y a pas un « je » qui peut être responsable ou pas responsable. Il n'y a pas de responsabilité, c'est juste ce qui arrive. On ne peut pas dire « je ne suis pas responsable ». C'est vraiment trop, hein. C'est comme de dire « je suis responsable ». Les deux sont faux. Il y a apparition d'une pensée, apparition de la croyance dans la pensée, apparition d'un travail avec une personne, apparition d'une douleur dans cette personne. Juste ça apparaît. Et il y a cette douceur dont tu parlais tout à l'heure. Elle te dit « j'ai mal ». Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il y a l'accueil. C'est tranquille. C'est tranquille. Et comment c'est pour la personne en face? C'est juste accueil qu'elle a mal. C'est forcément plus doux aussi. Tu vois? Maintenant, tu te sens coupable. Responsable. Oh, j'ai mal fait. Quelle est l'attitude de la personne en face? Ben oui, c'est sa faute. C'est à cause d'elle que j'ai mal. T'as les boules. C'est-à-dire que, en croyant à tes pensées, tu aides l'autre à croire à ses pensées. Elle souffre aussi. Parce que tu souffres, elle souffre. C'est utile? C'est pas la peine.
Donc on n'a aucune responsabilité.
Il n'y a pas de moi qui puisse être responsable.
Ce qui arrive, arrive.
Parce que je ne suis pas responsable, là maintenant je peux tuer tout le monde et voler les banques et tout.
Parce qu'il arrive rien.
Non, il n'y a pas de moi qui puisse être responsable ou pas responsable.
En fait, il y a aussi la volonté.
Attends, un instant, mec. Tant que ça rentre un peu.
Il y a des boulots où on impose une.
Huguette.
Ma mère est mal à l'aise, cette histoire de pas responsabilité. Je sais bien qu'on est pensé tout ça, mais je pense à ce gars aux États-là qui a séquestré trois bonnes femmes pendant 10 ans, qui les a violées, battues, etc. Bon.
Mais je dis pas que il faut laisser tout faire. Mais cette histoire merveilleuse, qui je crois est d'origine soufie, c'est un voleur qui est amené devant son juge et qui lui explique « Mais monsieur le juge, c'est Dieu qui m'a fait voleur, je n'y peux rien, vous ne pouvez pas me punir, je ne suis pas responsable. » Et le juge lui répond « Tu as parfaitement raison, c'est vrai. Et moi je ne suis pas responsable d'être juge, c'est Dieu qui m'a fait juge. Et en tant que juge, je dois te punir parce que tu es voleur. » Tu prendras 50 coups de fouet. La vie se déroule.
Oui, oui. Je sais bien. Della nous dit que si on était né dans les chaussures d'Hitler, on serait comme Hitler, etc. C'est pour nous, c'est. Mais ça veut dire que ce mec, pendant 10 ans, il n'a pas senti la souffrance.
Bien sûr que si. Mais il y a des études qui ont été faites. Bien sûr que si, il l'a senti. Mais lui-même est tellement en souffrance que c'était plus fort que lui. On s'est aperçu que dans les camps de concentration, les gardiens, enfin je ne sais pas comment on les appelait,
les gardes,
ouais, enfin, étaient d'autant plus méchants qu'ils faisaient souffrir les autres. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... je fais du mal à quelqu'un, ça me fait du mal, je me sens coupable, c'est sa faute, je lui fais du mal encore plus. Ça tourne en boucle.
On lui en veut.
On lui en veut.
À l'autre, d'être dans la position de faire du mal.
Exact. Et déjà, au début, si on fait du mal à l'autre, c'est qu'on ne gère pas bien soi-même. C'est qu'on est déjà sacrément en souffrance à l'intérieur.
Oui, c'est un truc qui... C'est un petit morceau qui... Du travail qui me...
Mais là, si tu veux, ça, c'est... À la limite, c'est pas intéressant parce que c'est pas ce que tu vis, toi, là, maintenant. Enfin, ce qui m'intéresse, moi, c'est là, maintenant, toi, ce que tu ressens, ce que tu vis, comment c'est toi pour toi. Parce que ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'il y a un autre à faire? À la limite, on peut pas en parler, on n'en sait rien.
Oui.
Tu vois, regarde comment je viens de faire avec Anne-Elisabeth. J'ai commencé par un truc, puis je dis, regarde, je dis, non, on va prendre un amour. Tu vois, c'est ici, maintenant, en fonction de qui j'ai en face de moi, de qui, ce qui se passe pour toi, qu'est-ce qui bloque chez toi, c'est ça qui est intéressant. Ce qui bloque chez l'autre, bah, tu me l'amènes, on en parle. Mais s'il n'est pas là, tu vois.
Oui, mais le pas responsable, c'est...
Je ne dis pas tu n'es pas responsable. Je dis il n'y a personne, il n'y a pas un moi qui puisse être responsable ou pas responsable. Ce qui est déjà très différent.
Oui, mais tu vois, avant, il y a longtemps, j'étais prof. Et j'étais une obsédée de responsabiliser mes élèves, de... D'ailleurs, j'ai des...
Tu fais ton travail de prof. Tu as fait ton travail de prof.
Oui, mais... Non, là, il y a le silence dans ma tête, et puis ça veut plus penser à des choses comme ça. Mais... Oui, mais elle est une personne bonne, et cette chose est venue, et bon... Mais peut-être cet homme-là était très malheureux, et...
Il y a des gens qui sont franchement très malades. Ils naissent malades. Les animaux, les gens très malades, ils les tuent à la naissance ou presque. Nous, on les aide à survivre. À cause de nos idées sur toutes ces choses-là aussi. Bon, je ne veux pas juger tout ça. Il y a des gens très malades. Les autres qui font du mal, sciemment à d'autres, que ne serait-ce qu'en crevant des pneus de voiture les uns derrière les autres, par exemple, hein, ou ne s'attaquent pas directement à quelqu'un, sont en souffrance. Regardez vous-même les fois où vous n'avez pas eu un comportement très clean. À chaque fois, c'est parce que vous étiez mal à l'intérieur. Vous le savez. Quand vous allez bien, il ne vous vient pas à l'idée de faire une saleté à quelqu'un ou de ne pas être clair avec quelqu'un, etc. Toujours, c'est tout le temps comme ça. C'est pareil pour les autres.
Daniela. Est-ce que par exemple, personnellement, voilà, ce qui apparaît dans l'envie, la nécessité d'aider les proches, souvent me met en impuissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider si l'autre ne veut pas être aidé, même si on se dit que c'est clairement, ça crie, que ça serait vraiment mieux, mais si l'autre dit non, ça arrête tout processus et ça, personnellement, me coupe l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que je me sens un gros zéro à ce moment-là.
C'est ça qui a besoin d'être regardé.
Oui, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai parlé, sincèrement, c'est quelque chose de récurrent et dont je n'arrive pas à me détacher simplement parce que l'émotion...
Et pourquoi est-ce que tu veux aider l'autre?
Je vais dire parce que j'aime. C'est peut-être très égoïste. J'ai envie que cette personne vive et vive bien. Voilà. Mais c'est moi qui dis ça. Si l'autre vit bien.
J'estime que ce serait mieux pour elle si.
Oui. Oui. C'est ce qui se passe. Hein. c'est ce qui se passe. Parce que quand j'analyse pourquoi je suis dans cet état-là en repartant, c'est que voilà, je mets en exergue l'âge, je me dis moi je peux, elle ne peut pas.
Ça, ce sont des pensées.
Tout ça sont des pensées, je suis très très consciente de ça maintenant.
Qu'est-ce qui prouve qu'elles sont vraies?
Ce que je vois. Si je ne voyais pas ce que je vois.
Là, je te propose vraiment de faire la liste de toutes les pensées qui apparaissent. Toi, tu prends un exemple, j'ai pas pu aider telle personne, alors comment ça s'est passé? Je l'ai vu, elle m'a dit ça, et voilà ce que ça m'a fait. Je me suis dit ça. Et tu notes. Ok? Et puis, je lui ai proposé mon aide, j'ai proposé ci et ça. Qu'est-ce qui m'a fait proposer ça? Ah, je me suis dit que si je proposais ça, alors. Et tu notes. Et puis, elle a refusé mon aide, et qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Quelles ont été les pensées associées qui ont créé cette sensation en moi? Forcément, il y a un refus. Forcément. Il y a un refus qu'elle refuse. Hein? Forcément, par exemple. Hein? Et tout ça, tu notes aussi. Et puis elle dit non, et puis ça me coupe l'herbe sous les pieds. Et qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que l'herbe m'est coupée sous les pieds à la sensation physique? Tu restes avec la sensation physique. Et à un moment donné, la pensée qui crée la sensation physique va apparaître aussi. Ou liée à la sensation physique va apparaître aussi. Je suis une zéro, comme tu disais tout à l'heure, par exemple. Et tu notes aussi. C'est une sensation horrible. Tu l'as vu celui-là? C'est pas vrai. Regarde. La sensation pure dans le corps. Tension, contraction, pression, piqûre, chaleur, froid. Regarde la sensation. Elle est où dans le corps? Ça me coupe l'air sous les pieds.
Au niveau du plexus,
au niveau du plexus, de la respiration, et qu'est-ce qui est ressenti exactement? Très précisément, avec des mots très pauvres comme ça. Contraction, torsion, pression, chaleur, froid, frémissement, piqûre.
C'est étouffement.
Étouffement, c'est pas une sensation. Constriction, oui, je prends. Constriction. Oui, quoi encore?
Froid.
Et tu t'es crispé aussi, donc une constriction, une contraction des bras, des épaules, du torse. Ça, la colère, c'est pas une sensation physique.
C'est pas une sensation.
Non, non. Maintenant, regarde. La constriction thoracique, la contraction corporelle, le froid. Est-ce que c'est vraiment si terrible?
Non.
C'est la pensée associée qui fait que c'est terrible. Mais c'est pas horrible. Tu disais tout de suite, c'est horrible. C'est pas horrible. C'est l'idée que je m'en fais. Tu comprends ce que je veux dire? On associe les choses, on ne regarde pas de près. Quand on regarde de près, on voit qu'en fait, ce n'est pas dramatique. Il y a une constriction, il y a une sensation de froid, il y a une contraction corporelle. Rien de grave n'arrive. Mais alors l'idée, là, ça c'est fort ça.
Ah oui, c'est très fort.
L'idée que je m'en fais.
Oui, elle est même violente.
Elle est même violente. Ouais, comment tu ne te laisses pas aider?
Oui, c'est ça. Tout serait plus simple.
Mais regarde comme ça devient compliqué pour toi.
Non, mais pour moi, c'est très compliqué pour moi, effectivement. Ça m'empêche de bien vivre. Ça me rend.
Donc tu veux, en plus, tu dis que tu.
Coupable, ça me rend impuissant.
Voilà, tu te sens impuissant, tu es coupable. Tu ne l'es pas en réalité.
Je ne le suis pas parce qu'avec le processus de.
Oui. Mais tu dis.
L'élaboration que je viens d'entendre, évidemment. Je
ne
suis pas.
Alors, écoute ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, elle vivrait mieux si. Et tu viens de dire, ça m'empêche de vivre.
Ça m'empêche de vivre.
On parle de soi, quoi. Mm-hmm.
Tu vois?
C'est-à-dire que. C'est une projection.
Il y a une forme de projection, mais surtout, occupe-toi, toi, de bien vivre. Après, tu verras ce que tu peux faire pour les autres.
Peut-être qu'à ce moment-là, ça va se faire.
Oui, peut-être, et puis peut-être que j'aurais beaucoup moins envie d'aider, ou que j'en ai plus rien à faire, qu'elle se laisse aider ou pas, parce que de toute façon, je vivrais bien.
C'est plus facile de voir ça, ce mécanisme qui a été décrit là chez l'autre, que de voir soi-même.
Exact, c'est bien pour ça qu'on est 6 milliards d'humains sur la Terre.
Ouais.
7, je ne sais pas combien. Pour pouvoir être le reflet des uns des autres et pouvoir s'accompagner dans ce genre de choses.
C'est toujours le même mécanisme qu'à la base, on va à l'extérieur pour ne pas sortir à l'intérieur. C'est plus ou moins ce type de...
Même, je ne sais pas dans quel cadre tu dis ça exactement.
Mais dans le cadre de ce qui est ressenti, pour ne pas ressentir cette émotion de...
Non, alors, pour moi, c'est... Là... Là, on va tourner vers le psychologique dans ce que tu dis, Samy. Oui. Moi, je vais plutôt revenir au côté à la perspective non-duelle qui va dire tout ceci s'appuie sur des pensées crues.
D'accord, la croyance.
Oui, les unes derrière les autres. Tu vois, il y a un ensemble de pensées crues qui créent tout ça.
Qui amène ça.
Voilà. Et dès que ces pensées sont vues pour ce qu'elles sont, des pensées crues, ça s'effondre. Toi, par exemple, c'est horrible ce que je vis dans mon corps. Ah bon, regarde. Ah ben non, c'est pas horrible. C'est donc bien une pensée crue.
Ce sont des mécanismes de langage.
Oui, mais auquel on croit. Oui, parce que tout à l'heure, tu croyais vraiment que c'était horrible dans le corps.
Oui, moi je crois à ce que je dis.
Eh oui. Mais enfin. Elle est très bonne, celle-là. Bah oui, en plus. Mais moi, je crois pas à ce que tu dis. Même si tu y crois.
C'est ça que je
remets
la chose en question.
Eh oui. C'est que c'est vu faux. Bien sûr que tu crois à ce que tu dis. Et c'est bien le problème. C'est que je peux répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des pensées crues. Donc alors bien sûr, dès qu'elles sont crues, tu vas les formuler, ils sont crues, donc tu crois à ce que tu dis. Mais à partir du moment où tu les crois, elles ont un impact. Tu crois au Père Noël, ça a un impact. Tu arrêtes de croire au Père Noël, ça a un impact.
Tu écris une lettre que tu vas la...
Tu crois que tu as trouvé l'amour de ta vie, ça a un impact. D'accord ?
Et donc, si je crois qu'il n'y a pas de moi, ça a un impact. Est-ce que c'est de cet ordre-là ?
Oui, ça va avoir un impact, mais croire qu'il n'y a pas de moi et voir ou réaliser qu'il n'y a pas de moi, c'est quand même pas la même chose. Oui. Parce que si tu veux, c'est croire qu'il n'y a pas de moi, c'est encore une croyance qui va avoir un impact. Mais c'est une croyance qui va avoir un impact. C'est pas réaliser qu'il n'y a pas de moi. C'est pas la même chose. C'est une pensée crue.
C'est remplacer une croyance par une autre.
Voilà. Ça libère pas vraiment.
Et c'est toujours cru.
Parce qu'après, il va falloir que j'agisse en fonction de ma croyance. C'est-à-dire que je vais dire, de toute façon, c'est pas moi parce qu'il n'y a pas de moi. Tu vois ?
Mais donc, c'est comme si la réalisation.
Ça va te revenir dans la figure tôt ou tard. Il y en a qui vont faire sentir que si tu crois encore en un moi. Même si tu veux croire qu'il n'y en a pas, tu ne peux pas effacer.
Et donc la réalisation a une puissance différente par rapport
à la croyance. C'est clair.
Heureusement.
Ben oui, parce qu'avec la réalisation qu'il n'y a pas de moi, si tu veux, il est vu que les autres croyances sont aussi vues pour ce qu'elles sont, quoi. Les autres pensées sont aussi vues pour ce qu'elles sont. Des pensées, des croyances qui ne prouvent pas qu'elles sont vraies.
Mais ça se fait quand ça.
Qui en fait sont vues pour une fausse, pardon.
La réalisation, ça se fait quand ça va se faire.
Oui, quand une pomme est mûre, elle tombe de l'arbre. Ah oui. Il y a un côté comme ça. Ah oui. Et cependant, c'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir pour que la réalisation arrive. Mais et en même temps, ceux qui viennent ici, quelque part, c'est qu'ils sont pas loin d'être mûrs, sinon ils iraient pas, ils viendraient pas ici, ils iraient acheter une voiture neuve, tu vois.
Le désir ou les pensées que je crois, enfin, il y a quand même une fonction de désir là-dedans, et je vais attirer ce que j'ai envie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la même manière que mon attention.
Ça, c'est une croyance.
Ouais.
Ça, c'est une croyance. Parce que le nombre de gens qui espèrent attirer l'homme de leur rêve, leur femme de leur rêve et la famille de leur rêve et qu'ils ne trouvent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Non! Et puis les gens qui rêvent de la réalisation et puis qui l'atteignent pas, ou on ne sait pas avant combien de temps. Non, parce que. On ne peut pas dire qu'il ne faut rien faire, ce serait vraiment une erreur. Il n'y a personne qui fait. Voilà, ça fait. Et sûrement pas ne rien faire, parce que ça, c'est faire rien. C'est encore une stratégie. C'est-à-dire que. Il se trouve que statistiquement parlant, il y a plus de... Enfin, la réalisation arrive plus souvent chez ceux qui ont une pratique que chez ceux qui n'en ont pas, quand la pratique est orientée à réalisation. C'est-à-dire, regarder les croyances, être avec ce qui est, enfin, des choses comme ça.
Mais on n'a pas de contrôle sur le moment où ça
Ah non, aucun. Et en même temps, à un moment donné, il faut une forte... Enfin, il ne faut pas, mais... Statistiquement, le plus souvent, à un moment donné, il y a une forte détermination, maintenant je veux voir. C'est pas « je veux acquérir l'éveil », c'est « je veux voir ce qui est vrai, je veux savoir ». Voilà. C'est plus pour l'amour de la vérité que pour atteindre quelque chose. Quitte à en crever, j'en ai marre de céder à ma peur, maintenant je veux voir ce qu'il y a derrière, voir de quoi elle est faite. Tu vois, par exemple, je veux la vérité.
Quitte à en crever, je l'aime.
Quitte à en crever.
Ou à n'importe quel prix.
À n'importe quel prix.
Oui, moi, je gagne. De toute façon.
Eh bien, c'est bien le problème. Tant que tu y mets une condition. Tant que tu y mets une condition.
Je n'ai pas de condition, enfin, je ne peux
pas en faire.
Bah, si. Sans bras, sans jambes, et puis là, bah, je suis éveillée, et puis là, boum. C'est quoi, je peux rester en train de dormir, quoi.
Alors, tu vas continuer à dormir. Mais de toute façon, quel est le risque de perdre les bras et les jambes? Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. En tout cas, moi, j'ai toujours les miens.
Non, non, mais c'est ce que ça, dans d'autres endroits, ça a déjà été dit, des choses comme ça. Donc là, il faut le voir à tout prix, à n'importe quel prix.
Est-ce que tu es prête à tout lâcher, à tout donner de toi-même?
Moi, je ne crois pas. Je crois que personne n'aime ça.
Il
n'y
a personne.
Il n'y a personne, déjà.
Alors, regarde là où tu n'es pas prête. Regarde ce que tu n'es pas prête à lâcher. Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas prête à le lâcher?
Je tiens au personnage.
Qu'est-ce qui t'amène de tellement agréable ce personnage?
Mais me faire rire.
Est-ce que tu trouves que moi je ris plus?
Non, je n'ai pas dit que tu riais plus. Non.
Je ris beaucoup plus qu'avant. Et plus que toi, je suis sûr.
Ça, je ne suis pas sûr.
Tu tiens au personnage, mais de quoi il est fait ce personnage auquel tu tiens?
Ah non, c'est mon explication, c'est une pensée, ce sont des pensées, tout ça, mais...
Ben, donc tu tiens à des pensées? C'est tellement important de tenir à des pensées?
Sans doute.
Mais regarde, est-ce que c'est vraiment le coup?
Non, je sais bien que ça ne vaut pas le coup.
Ben alors?
Une partie de moi le sait bien, évidemment.
Mais, le savoir intellectuellement ne suffit pas. Non, regarde, est-ce que vraiment ça vaut le coup pour toi? Pas pour moi.
Non, ça je sais.
Pour toi? Est-ce que ce personnage, ça vaut vraiment le coup de le maintenir? Est-ce que ces pensées auxquelles tu crois, ça vaut vraiment le coup de continuer à les croire?
Mais non, ça je suis bien d'accord.
Mais alors, regarde-les une à une.
Je n'ai pas fini. Hein.
Jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Ça me frappe que tu dises « je tiens au personnage ». Moi, je ne tenais pas du tout au personnage. Alors ça, c'est sûr.
Non, non, c'est mon explication.
Donc, c'est même pas vrai.
Non, c'est même pas vrai. Alors, Anne... oui et non, je sais pas.
Mais il y en a plein qui tiennent à leur personnage. Il y en a plein qui tiennent à l'identité qui sont construites, à leur histoire personnelle, à leur personnage. Mais il y en a des tonnes. Et évidemment, c'est un gros frein.
Ah non, ça, moi, je viens d'en faire.
Et tout a gagné. Et tout a gagné.
Je n'en sais rien.
Mais si, vous perdez quelque chose avec l'éveil.
Ah oui.
Vous perdez des croyances fausses. C'est une perte.
Des croyances.
Des pensées crues.
Des pensées crues.
Exact.
Et pas que le temps cuit.
Oui, Françoise.
J'en suis restée responsable.
Oui, c'est fort ça.
Si l'être que je suis est automatiquement responsable et qu'en fin de compte ce qui m'a interpellé tout à l'heure c'est que je me dis quoi, pas responsable, mais c'était mon moi qui veut garder cette image de personne responsable ou
exact
gentil, tout le bazar,
qui assume, qui assure, etc.
Je suis automatiquement dès que je n'ai plus. Dès que le moi ne joue plus, ben je n'ai pas à chercher à être puisque je suis déjà.
Exact. Voilà. Okay. Et la responsabilité naturel s'exprimera. C'est-à-dire que l'exemple que je prends toujours, j'aimerais en trouver un autre parce que ça fait un peu répétition, si un enfant traverse la route et qu'il y a une voiture qui arrive, même si ce n'est pas le nôtre, tout le monde va le bloquer.
Ça, c'est un réflexe aussi de protection de la vie.
Oui, c'est un réflexe, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être responsable pour agir de façon responsable. De façon avec justesse. Voilà. Il n'y a pas besoin de ce concept. C'est naturel. C'est naturel.
Et donc, ce qui a bougé tout à l'heure, quand j'entendais parler de responsabilité, c'est un petit moi qui disait « Quoi ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ?»
Oui, 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 ça choque. Hein.
Donc, on s'accroche, en fin de compte, ce moi s'accroche à des rôles, quoi.
C'est pas ce moi, il n'y a pas de moi. Il y a accroche à des rôles, à des croyances. Ça s'accroche de fait. Ça colle. Et là, il y a quelque chose qui s'est décroché. Mais tu as vu le mécanisme.
Et donc, comme dans l'exemple de Daniela, parce que je vis des choses similaires oui. avec mes parents, il y a une partie de moi qui s'est accrochée à être une bonne fille.
Mais évidemment, il n'y a pas à avoir honte, presque tout le monde fait ça.
Ça se ferait ou ça ne se ferait pas. Voilà, je serais là pour eux, mais je ne serais pas là.
Oui, mais l'idée d'être une bonne fille peut développer un certain orgueil.
Oui, c'est
presque héroïque.
Presque héroïque,
oui. Une certaine vanité. Voilà. Mais quand tu commences à en rire, tu vois, ça perd de sa charge. Tu vois ? C'est un jeu. J'ai joué ça. J'ai joué ce rôle. Et j'y ai trouvé une certaine satisfaction. Mais je l'ai payé le prix fort.
Hein ?
Et au moment où on réalise que le prix ne vaut pas le bénéfice, généralement ça s'effondre, tu vois. Mais il reste que tu restes la fille de tes parents. Et ça ne veut pas du tout dire que tu es en train de prendre soin d'eux. Parce que s'ils viennent prendre soin d'eux, tu vas le faire, c'est naturel. Et s'ils viennent leur dire zut, tu leur diras zut, parce que tu n'as plus besoin d'être une bonne fille. Mais ce sera tranquille. Ça pourrait être, papa, maman, je vous aime, et zut. Tu vois. Et je vous aime, zut. Et ça va avoir un impact, hein.
Démerdez-vous.
Pas forcément démerdez-vous. Ça peut être... C'est pas forcément démerdez-vous. Ça peut être, je suis prête à être là pour vous, mais pas à n'importe quel prix.
Pas à n'importe quel prix.
Pas n'importe quand.
Peu importe, de toute façon, ça va se gérer tout seul. C'est dans la nature de la vie, des choses, de nous-mêmes, de l'être, d'être au service, en quelque sorte, toi, je dirais. Toi, de... Tu vois, personne n'est méchant en soi. On est tous bons au fond, quoi. On est la bonté même.
Mais la vie est bonne.
Et en fait, ce moment-là, on fait juste ce qui est juste pour soi.
Ce qui, à ce moment-là, apparaît être la justesse. Mais sans réflexion dessus, ça arrive. Sans réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour. Bon, je ne dis pas qu'on ne va plus réfléchir, ça peut arriver qu'on réfléchisse. Mais d'une façon générale, ça arrive.
Et donc, alors j'ai senti, parce que c'est dans ces derniers mois, j'ai senti alors la différence entre me sentir obligée d'être là, parce que je n'ai fait pas mal de choses dessus, et être simplement présente. Ok, c'est bon.
Exact.
C'est la pause,
Gérard. Allez, bon appétit.